Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up pour des gens qui veulent faire du stand-up ou qui en font déjà. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Scott Fins.
Scott Fins, hello tout le monde, hello, hello, hello.
Les amis, cette semaine, c'est l'épisode People.
Oh my god.
On est arrivé au climax de Stand Up France, donc un épisode très People où on va devoir name-dropper, on va devoir...
C'est vrai.
Plein de choses, ça va être dense. On va faire un épisode d'une heure. On vous donne des quiz Stand Up France. On fait un épisode d'une heure et si on voit que ça déborde, on fait un autre épisode direct après parce qu'il y a beaucoup à dire cette semaine. Et on va commencer par Scott. Scott, qu'est-ce qui s'est passé en milieu de semaine là Qu'est-ce que tu m'as fait en milieu de semaine? Tu as cédé? J'ai parti sur un truc trop people pour moi.
Voilà, en milieu de semaine, j'ai décidé de donner un peu de visibilité à un jeune artiste qui, en plus, il est plus jeune que moi et qui a besoin d'un peu d'exposition médiatique. Et je lui fais un gros bisou, je le remercie beaucoup. Parce qu'il m'a invité à venir voir son spectacle pour que je puisse après en parler ici, pour booster un peu sa carrière.
C'est ta version, ça. Moi, je la soutiens pas, cette version.
Bon, c'est Jeff Panaclock, le mec le plus médiatisé au monde. Alors, Jeff Panaclock, puisqu'il est auditeur de notre podcast et qu'il nous aime beaucoup, il m'a filé une invitation pour venir le voir au Zénith à Toulouse. Et c'était très, très cool. Je devais y aller avec ma femme et ma fille, mais finalement ma femme était fatiguée et tout ça. Donc j'ai proposé à un ancien élève de venir avec moi et je lui dis écoute, j'ai des invites pour aller voir Jeff. Il dit ah super et tout, on y va machin. Mais je ne leur avais pas dit que Jeff connaît mon existence. J'ai juste dit que voilà, j'avais des invites pour aller voir.
Oh bien.
Et le mec très content, on arrive à la billetterie, il donne les trucs, on saute la queue. Pour les entrées, parce qu'on avait des invitations.
VIP.
VIP, voilà, direct. Et à la fin, j'aurais rien dit à ma fille aussi. Ma fille en plein brevet blanc, j'aurais rien dit. Et à la fin du spectacle, c'est super, waouh. C'est vraiment le mot, waouh. Le spectacle, on va pour partir. Et je leur dis, attends les gars, on ne peut pas partir comme ça. Il faut aller faire un bisou à Jeff et remercier quand même pour les invitations. Et là, ils étaient quoi? Jeff Panaclock t'a invité. Oui, Jeff Panaclock m'a invité, mais vous me prenez pour un pimpin ou quoi? Et donc, après, c'était drôle parce que, il nous a dit de venir, mais comment arriver à la loge? C'était tout un épisode. Et je vais voir un mec de la sécurité. Et je lui dis, excusez-moi, je dois aller voir, remercier Jeff, il m'a invité et tout. Et c'est là que tu relativises la valeur de la célébrité. Le mec de la sécurité me fait, il n'y a pas d'autographe, hein, c'est fermé. Je dis non, mais l'artiste nous a invités à aller en loge rencontrer. Il dit qui, l'acteur là? L'acteur? Non, il n'y a pas d'autographe, c'est fermé. Je dis merde. Donc je suis allé voir quelqu'un qui avait un talkie-walkie. Et là, ça s'est bien fait. Donc après, on est allé le voir. Et ma fille, la reine de la troisième le lendemain, waouh. Et Romain, mon pote, il était là, mais t'es trop calé, Scott. Comment ça se fait? Et c'était très, très cool. Voilà. Donc, super spectacle.
Parle-moi d'un truc qui m'intéresse. Qui m'intéresse beaucoup. Ouais, je n'ai pas encore vu le nouveau personnage. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Jerry Gollery. Il est stand-upper.
Ouais.
Il se situe, on va dire, en première partie de Jeff actuellement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est la troisième, quatrième fois qu'on le dévoile, ce personnage.
Ouais.
Alors, c'est un bon stand-upper?
Ouais, c'est un bon stand-upper. Il a les codes. Après, est-ce que c'est un bon stand-upper? C'est une bonne question. En tout cas, il est très, très drôle. Et après, ça fait un vrai entracte. Et ça, c'est très drôle parce que le spectacle n'a pas commencé vraiment. Il fait sa première partie. Il repart en coulisses. Et après, t'attends 15 minutes pour que le spectacle commence. Et on était là. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que le personnage, justement, dit « Ouais, il vous fait faire l'entracte pour que vous alliez claquer de l'argent, acheter des marionnettes, ou acheter de la bière, ou vendre, ou acheter des t-shirts et tout. » Et après, il y a un vrai entracte. Et ça, c'est très drôle. Mais en plus, maintenant que j'y pense, c'est vraiment très séparé du spectacle. Ça veut dire qu'il y a un rideau qui est devant, donc c'est vraiment comme à l'ancienne. Les gens qui faisaient la première partie devant le rideau. Il est drôle. Et après, c'est un personnage de Jeff Panaclock, quoi. Donc, il est drôle, il tape tout de suite, il met le ton rapidement. C'est une bonne première partie, parce que c'est une première partie qui introduit le spectacle, qui montre l'univers de l'artiste, et c'est très, très cool.
Alors, on va pas, sur l'origine de Jerry, on va pas en dire plus parce que Jeff viendra l'expliquer lui-même dans le podcast.
Yeah, c'est cool.
Tout ça, je peux juste dire un truc qui est très... qui me fait beaucoup rire. C'est que là, c'est les derniers Zénith. Tu vois, c'est sa dernière série de dates. Ouais. Il n'avait pas besoin d'avoir un nouveau personnage. Il n'avait pas besoin de se rendre fou pour avoir 5-10 minutes de sketch en plus. C'est oui. Totalement inutile. Mais pourtant, il arrive, il revient, il se challenge, il arrive avec un nouveau personnage qui allait tester au Jamel Comedy Club. Il s'est rendu fou sur le stand-up, mais fou, furieux, il le racontera, mais c'est un malade. Et il revient avec un nouveau personnage qui, en plus, il apporte un concept de malade d'être en première partie. Donc moi, ça m'a fait rire de voir un gars acharné. Et je vais le dire sans embâge, c'est à ce niveau-là, les mecs travaillent trop fort.
Ben oui.
Les gars, ils travaillent trop fort, ils sont obsédés. Et là, c'est l'obsession qui fait que d'un coup, tu proposes pour un spectacle qui est déjà très bien rodé, tu proposes un cadeau de plus au public, mais ce cadeau, il te coûte, toi, en tant qu'artiste. Ça coûte des nuits blanches, ça coûte des dizaines d'heures de travail en amont. Mais bon, c'est comme ça qu'on arrive au sommet et deux, qu'on le reste, je pense.
Ben oui, c'est ça. Et en plus, disons qu'avec un stand-upper classique ou un humoriste qui n'est pas ventriloque, on sous-estime la quête de la perfection. Mais quand tu fais un truc comme fait Jeff Panaclock, tu dois... Le timing, c'est le timing de chaque personnage. Chaque mot a une place précise. Tu ne peux pas te gameler. Tu peux pas... Waouh, c'est vraiment un truc. Parce qu'au bout d'un moment, tu arrêtes de voir le ventriloque. Tu vois les personnages parler. Tu vois que dalle, en fait. Et c'est ça, la magie. Mais ça, c'est des milliers d'heures.
Ben, ma mère, hier, ma mère m'a envoyé un SMS, elle m'a dit « Il y a Jean-Marc sur la 2 ». Parce qu'elle, elle ne voit que la marionnette.
Ah oui, c'est ça, c'est ça.
C'est drôle. Et oui, on oublie ça dans la spécificité de ces gens-là, qu'avant d'être un humoriste, il y a une prouesse technique qui, en fait, il la rend tellement facile que tu te dis « Mais non, mais ils enlèvent le côté prouesse technique, ils rendent ça trop facile pour que toi, tu te concentres que sur la marionnette ».
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'était waouh. Et ça, franchement, c'est chapeau, quoi. Après, dans la partie plus people, donc on est arrivé en loge. Et après, j'ai vu plein de trucs intéressants. C'est-à-dire qu'on n'était pas en loge. C'est pas genre tu vas aller traîner avec Jeff Panaclock pendant qu'il se charge en loge. Non. C'est un sas. Il y a un mec de la sécurité. Moi, j'arrive en mode ouais. Et le mec, parce que Jeff, il parlait à une dame et son fils. Et le gars de la sécurité nous a parqués.
Ouais, normal.
Vous vous mettez là. Et il dit, ah oui, bah oui. Mais c'est ça qui est rigolo, parce que tu penses que tu vas comme au café, quoi. Ouais, mais non.
Il y a de logistique, il y a une grosse logistique. Sur ce spectacle.
Ben c'est. Oui. Les camions et des trucs, c'est une équipe.
Parce qu'il y a un décor énorme. Hein, tu vois sur Instagram, il y a la Jean-Marc Tower, là, c'est énorme.
Ouais, c'est
génial. Il y a un pognon, ça coûte un pognon fou de faire ça. Hein.
Ouais.
C'est un gros show. Après, tu sais, il a eu. On aura l'occasion d'en parler, mais il a eu un musical aussi.
Ah oui, ça c'est le kiff, ça.
Il a eu un musical et il a vraiment cette culture de « Ok, la plus-value, les gars, je fais des zéniths, mais je vous en mets plein les yeux. » Il y a vraiment une production de value énorme sur son spectacle.
C'est vrai. Ça, il y a un moment... Ouais, je pense que c'était le moment...
Ne me spoil pas parce que j'y vais
bientôt. Non.
Bientôt, hein.
Non, je ne vais pas spoiler. Mais c'est le moment où j'étais jaloux de lui. Tu vois, il y a des moments... Parce qu'il chante, il chante. Et il fait un truc, il dit « Waouh, quel kiff !» de venir au Zénith chanter une chanson et faire son petit truc. Voilà, parce que ça, pareil, t'es pas obligé de le faire, mais ça doit être un kiff. Après, et peut-être le track aussi, mais quel kiff de le faire. Je dis, waouh, moi aussi, j'ai envie d'aller faire ça. Voilà, le reste, non.
On peut parler impro, ça te va ?
Allez, parle.
Il y a un truc qui est sous-estimé chez ce gars, c'est le level d'improvisation. Il est fort au tac au tac en impro, c'est sharp quand il fait des impros, lui.
Mais oui.
Et ça dépasse le côté tu viens d'où, t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie. Moi, je trouve qu'il a vraiment un truc qui est explosif.
Ah ouais. Et ça, un truc très drôle, bon, qui ne spoil rien, c'est qu'au premier rang, il y avait un gars et Jeff lui attribue un prénom et le mec dit non, c'est Rémi. Et direct, Rémi sans famille, pam, papa. Et j'étais là, en plus, c'est drôle parce que ici on avait parlé de ça. Et c'est drôle, donc, mais à la fraction de seconde. Et y a un moment, et après je te dirai en off, et pour vérifier si c'est une impro ou pas.
Ah,
Voilà, parce
je
que
ne saurais pas.
on était là, et
Je te dirais pas, c'est comme révoiler le tour de magie d'un. C'est comme si je te disais.
tu ne me dirais pas s'il a refait. Il faut que j'aille revoir le spectacle.
Ah ouais, il faut que tu ailles revoir le spectacle, sinon c'est comme la magie, je t'enlèverai un truc.
Bon, bah merde alors. Parce que ah, c'était tellement bien fait que je me dis, ah, c'est bien fait quand même. Oui, mais c'est quand même un pro. Et donc, c'est ça qui écoute. On est dans le
Les
doute.
gars, 20 ans de carrière, les cabarets, je pense que ça te forme. Tu vois, quand je dis, hey, ce soir j'ai fait trois comedy clubs, j'ai essayé de régler une blague, tu vois que moi j'ai l'impression d'avoir inventé le stand-up, il me dit, bah non, mais ça va, on le faisait il y a 20 ans en cabaret, ce que tu fais là.
Ah oui.
Détends-toi, tu vois, avant de passer un cabaret à l'autre, on jouait, ou alors la salle se remplissait, on rejouait, quoi.
Ah oui.
On croit toujours avoir inventé un truc avec le stand-up, alors que tout ce processus-là a toujours existé, mais c'est d'autres formes, d'autres noms, d'autres types d'humour, quoi.
Après, le truc qui m'a marqué, c'est lui en tant que personne, hors scène. Et ça, c'est très drôle parce que tu vois tous ces personnages super exubérants avec des voix de fou, super expansifs, super extravertis. Tu le rencontres, mec, super calme, super tranquille,
Ouais.
super. Et en plus, c'est drôle, il y avait le petit jeune qui était avant nous, qui est, c'est un ado, qui lui dit, sinon, Jeff, c'est quoi tes passions? Et lui, enfin, bah, ça. Parce
Ah
que tu peux
ouais,
pas faire autrement. Genre, le mec, il peut pas être passionné de pêche sportive. C'est
ah non,
ça.
il est dédié à l'art, hein. C'est dédié à l'art et
Ah oui, c'est
c'est.
ça. Ça, c'était très drôle.
Et oui, c'est. Ouais. Après, je spoil pas et on ferme la parenthèse Japan Cook. Moi, c'est. On serait quand même plus au moment. Voilà, moi, c'est vraiment dans ma vibe. C'est vraiment la vibe d'artiste que j'aime où on est calme en dehors, on est focus sur les blagues, sur le spectacle. Qu'est-ce qu'on donne au public? C'est quoi mon prochain spectacle? Qu'est-ce que je fais? Et ça, j'adore, je me nourris de ça. Ouais, il me régale. Il me régale parce que j'aime trop les gens qui travaillent fort, fort, fort. Et je te dis, c'est inutile, on pourrait ne pas faire un nouveau personnage, mais il fait le nouveau personnage, ça me tue en fait d'avoir un gars qui se challenge, qui se fait du mal, parce que c'est dur des fois.
Ben oui.
Et ça m'inspire, je me dis, ouais, toi, moi des fois je me retiens, des fois je fais quatre fois le même sketch en comedy club, je me dis, mais non, mais arrête de faire ça, arrête, challenge-toi, bouge-toi, parce que l'étape d'après, elle ne passera que par le fait de te remettre en question en permanence, de
Oui.
t'améliorer, de te dire, ok. Il y a ce que tu penses que le public veut et toi, ce que tu dois imposer.
Ouais, c'est vrai.
Et alors ça, maintenant, on va arriver à un point qui est important à aborder.
Attention.
Je pense qu'on peut très bien, vous pouvez très bien, très vite comprendre ce que le public veut, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez devenir un people pleaser. Quelqu'un qui, et si ça arrive souvent à Paris, vous comprenez les codes, vous comprenez à peu près les sujets sur lesquels le public peut vous suivre et vous allez leur donner ça. Et en retour, vous allez avoir des rires. Moyens, forts. Et je comprends d'un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, comprendre comment ça marche, la mécanique et satisfaire le public. Je crois intimement que d'un second temps, il y a une autre recherche à faire. Chez certains, ça sera une recherche de la vérité. C'est-à-dire se dire, OK, je suis dans un art de vérité, c'est le stand-up, et je vais toujours chercher à aller vers la vérité. Et de plus en plus, et quitte à ne pas être drôle à un moment et à rendre ça drôle après, mais je veux être connecté à cette notion de vérité. Chez moi, c'est pas totalement la vérité que je recherche, c'est autre chose. J'avoue, je recherche un certain type de blague, une certaine émotion, une certaine tournure intellectuelle dans mes blagues, mais je suis drivé par ça. Je me dis, OK, je vais faire les blagues les plus perchées du game. Et je vais surtout, dans mon cas, je vais enlever les punchs. J'essaie d'arriver à un moment où j'enlève le maximum de punchs pour que les blagues, pour que le public comprenne les blagues sans la punch. Tu vois, c'est une stratégie un peu comme Steve Martin. Voilà, c'est mon credo. Mais en tout cas, je suis drivé. J'ai passé le premier cap de OK, j'ai compris ce que le public pouvait attendre. Maintenant, je ne veux plus être dans cette réflexion de qu'est-ce qu'il attend. Moi, c'est qu'est-ce que je lui propose et comment je lui fais faire le chemin pour qu'il comprenne ce que je lui propose. Et je crois que c'est la deuxième étape qu'on doit tous franchir, c'est OK, j'ai satisfait maintenant, ou je cherche la vérité et j'impose un style, j'impose un propos qu'ils n'ont pas attendu. Intuitivement, ils pourraient se dire ça ne me plaît pas et malgré ce, ils vont rigoler.
Ouais, moi ça me fait penser Je ne sais plus qui est l'auteur qui a dit ça, mais on fait trois types de blagues dans notre carrière d'humoriste. Quand tu commences, tu fais la blague que tu sais faire. Donc, le proctologue, le truc que tu as entendu à table avec tonton, etc. Bon, la blague
Hitler,
que tu sais faire, Hitler.
plein de blagues sur Hitler, la masturbation et les appuis de rencontre. Allez, ça, on l'a
voilà.
passé.
Voilà, la photo n'est pas contractuelle. Hein. On avance. Deuxièmement, tu as la blague que tu peux faire. Tu maîtrises les codes, tu sais faire des blagues et tu peux faire. Tu peux être un technicien de la blague. Tu sais faire, tu peux faire, tu peux faire les blagues que tu veux. Et la troisième, celle qui arrive à, peut-être au troisième tiers de ta carrière, la blague que tu as besoin de faire. Et c'est ça. Quand tu arrives, c'est ça. Tu as besoin d'exprimer ça. Et tu vois plus, surtout dans les gens que vous admirez le plus, vous allez voir que ça tend de plus en plus vers soi, le parcours de l'humoriste. Et ça, c'est très cool. Parce que, ok, chaque fois, qu'est-ce qu'on va creuser en plus? Quand on enlève une première couche, les chiens et les aéroports, ok, qu'est-ce qu'il y a après? Ah, les prix de rencontre, après. Et tu commences, et tu continues à enlever des couches comme ça pour arriver à toi. Et c'est toi qu'on veut voir. C'est pas ce que tu as à dire sur la politique, quoi.
Mais techniquement, c'est vrai qu'on pourrait... Moi, je m'interdis les blagues politiques. J'en ai fait des trucs où, d'actualité, des choses. Je peux faire une blague, elle est correcte, mais comme elle n'est pas connectée à ma vérité, à ma recherche, elle ne restera que correcte. Et je vais faire sourire, je vais faire un peu rigoler, mais je n'aurai pas la magie que je peux obtenir sur des trucs très personnels qui me parlent et que j'ai envie de développer, d'étirer.
Ben oui. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quoi que tu fasses, même le non-choix est un choix révélateur. Si tu choisis de faire des trucs, voilà, les sites de rencontres, blablabla, ben, tu te caches. Et tu viens montrer que tu te caches. Et que tu le veuilles ou pas, tu vas te trahir. Et les gens vont te voir. Même si tu penses que tu risques rien. Ah, c'est juste un texte, c'est juste un personnage. Bah, c'est un personnage, oui. Mais tu montres, j'ai quelqu'un que je connais qui fait souvent des personnages. Bah, à la fin, tu ne le connais pas, lui. Tu vois un personnage. Donc, le fait qu'il se cache comme ça, tu dis, ok, bon, je sais que tu te caches. Même si tu ne veux rien montrer. Et ça, c'est très intéressant.
Et il faut le verbaliser. Moi, je vois des artistes dire « Ah là, je ne dis pas la vérité. C'est dommage, je dois dire la vérité. » Tu vois, mais en coulisses, c'est dire « Là, je vois bien que sur ce sketch-là, je ne dis pas encore la vérité. Tant pis, il faut que je me batte vers la vérité. » Ça leur donne un chemin, une ligne directrice où « Ok, cette fois-ci, ils ne l'ont pas bien fait. La prochaine fois, ils vont commencer à dire la vérité. » Ou alors, ils vont partir à la vérité, ils vont la twister pour que ce soit un peu drôle. Mais en fait, ça te donne un but, un endroit vers lequel tendre et ça oriente toute ta comédie. Et ça l'attire vers le haut, forcément.
Mais oui, mais oui. Et encore, je vais faire une petite parenthèse. Le paradoxe du gros mot. Parce que, justement, avec les spectacles de Jeff, il y a un moment où Jean-Marc dit « Mais putain, les gens disent que je suis un singe vulgaire. » Mais ils ne viennent pas voir le spectacle. Ils disent ça. Et la vulgarité, les gros mots, le choc dans le stand-up, ce qui est drôle, c'est parce que des gens n'aiment pas ça, que c'est drôle. Tu vois, ouais, la vulgarité. Par exemple, quand t'es petit, les adultes te disent t'as pas le droit de dire des gros mots. Et donc, quand tu les dis en cachette. Et ça te donne du plaisir de les dire en cachette. À l'école, tu y vas à fond. Et ça crée dans le cerveau un truc de chimique, qui est des décharges chimiques qui sont très sympas, quand tu dis des gros mots. Après, quand t'es adulte, et quand tu vas voir un spectacle de Jeff Panaclock, et que les gens disent « Ah, c'est un spectacle familial !» Et son quatrième mot, c'est « chatte !» Et là, il y a une joie énorme du public. C'est « Waouh !» C'est un interdit. Qu'est-ce qu'on kiffe ça ? Et c'est parce qu'il y a des gens un peu pédants qui sont là « Ouais, mais voilà, ça, c'est pas de l'art. Ça, c'est non, 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 non. » C'est ça, c'est leur attitude qui rend le truc drôle. Donc, voilà, c'est juste dire
ça. Il y a vraiment une notion de « c'est OK, mais pas OK ». Tu vois, ce fameux truc hein, qui est développé dans le livre là sur les folies inappropriées, c'est toujours des situations OK et pas OK les gros mots.
C'est ça.
Mais je fais une alerte sur les gros mots. Je pense souvent, des fois, les gens s'en servent comme punch. Et intuitivement, je crois que c'est jamais une bonne punch. C'est très rarement une bonne punch, les gros mots. Ouais.
Mais c'est ce que ça fait. Felt.
Putain, tout. Un putain, ça peut pas être la punch. Parce que souvent, et il y a quelques mots comme ça dont je me méfie qui font que les gens ne rigolent pas à la blague, ne rigolent pas à l'idée, Ils rigolent au mot parce que c'est il y a un côté pavlovien à dire OK. Et souvent, les gens rajoutent en tag de leur blague le bâtard. Mais non, mais ça. Tu commentes ta propre blague en fait avec un mot qui. Moi, je suis pour la pureté des blagues, enlever le maximum de mots. Et je vois pas, je vois très rarement putain, merde et tout devenir une punch parce que je vois pas quelle réponse ça apporterait, quelle misdirection ça résoudrait. Hein, putain, oh merde. Donc, méfiez-vous de ça, ça fait de l'attitude. Et j'entends que les putains, ça fait de l'attitude, des trucs comme ça, mais je suis pour les supprimer. Et parce que plus vous en supprimez, plus si vous en gardez un, il va être explosif.
Mais oui,
Il va être surprenant, il va être explosif. On va dire, ah ouais, cette fois-ci, ça méritait de mettre ça.
ben oui, c'est drôle. J'ai une élève qui faisait ça, faisait genre, dans 110 minutes, à la 8e minute, sans dire un seul gros mot, elle parlait des addictions et tout ça, parce que c'est bien connu. Les hommes fument et les femmes sucent. Putain, quand elle dit suce, ça explose, parce qu'elle n'a pas dit un seul gros mot, du début jusqu'à
Elle a
la fin.
masqué son jeu.
Et quand elle le balance, les gens sont pétés de rire, parce qu'ils ne s'attendent pas. Et c'est très surprenant. Mais comme disait Seinfeld, si t'as besoin d'un fuck dans ta blague, c'est que ta blague n'est pas assez forte.
Et autre chose que qu'on sous-estime, et là, ça va être important de l'entendre et j'espère que vous allez le comprendre. Si vous dites des gros mots, si vos blagues c'est à base de masturbation, si vos blagues c'est à base de choses hardcore, ce sont des blagues, ça peut être des très bonnes blagues, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez vous priver d'une partie du public. Ça ne veut pas dire que vous allez pas avoir une carrière. Il y a des gens qui font des trucs très sympas avec ça, mais le grand public, vous n'allez pas l'atteindre aussi facilement. Vous ne pourrez pas vous positionner sur certaines choses. La télé ne veut pas forcément ça. Les galas veulent pas forcément ça. Je ne dis pas qu'il faut changer votre humour. Je dis juste réfléchissez à l'effet de ce type d'humour. Et peut-être que des fois, en paraphrasant, en mettant la. Moi, souvent, comme j'ai acquis ce réflexe d'enlever ces histoires-là et de les remplacer, des fois, je m'aperçois que j'ai des idées très dark et très graphiques et tout, sans avoir un mot vulgaire. En essayant justement de contourner ça, de me dire, si je mets la bonne image dans la tête, ça va être explosif, mais je ne vais pas me priver d'une partie du public et je ne vais pas mettre de côté ceux qui détestent la vulgarité et ceux. Juste, je vais prendre d'autres chemins et rendre ça malin.
Mais oui, parce qu'en plus, tout est curseur. Moi, je le vois comme des. Déjà, les mots et les expressions ont des fonctions. Ce n'est pas. Non, un adjectif, c'est un adjectif. Et donc,
Tout à fait.
je me sens quoi à raconter ce genre de truc.
Bon, non, mais c'est
Mais.
important de le préciser. Des mots ont des
Oui.
fonctions et à haut niveau, les gens choisissent très bien leurs mots. Et il y en a qui ont fait des carrières. Moi, je vais te dire, un mec comme Guillermo Guise, son choix des mots, il est parfait. Et en plus, il a la bonne prononciation et tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre des dictionnaires de synonymes et à challenger les mots, changer les expressions ou à dire à vos amis, ça, je le dis comme ça, tu le dirais comment toi?
Mais oui. Parce que un mot qui vient qualifier un autre, donc si c'est un adjectif qui est positif sur quelque chose, bah il y en a peut-être des dizaines que tu peux utiliser à la place de ça. Si ta chute, c'est juste une révélation d'une vérité qui est cachée dans le setup, bon, parce que le punch, c'est quoi? C'est le minimum d'informations requis pour montrer la vraie interprétation de ce que tu as écrit dans le setup. Bon, et des fois, la révélation, le mot qui révèle, bah, tu peux, c'est comme un spectre et tu peux aller de zut jusqu'à nique ta mère. Tu vois, c'est dans le choc. Et tu peux garder la même structure, la même blague. Et des fois, selon le public, selon les gens que tu as en face, tu peux l'adapter et être plus graphique, plus violent, plus agressif ou tout à fait plus chic et plus zen, quoi. Et le contraste aussi, parce que Blanche Gardin, elle dit plein de trucs. Mais Blanche Gardin, c'est drôle. Bon, un peu les gens qui sont contre la vulgarité vont peut-être avoir quelque chose à dire, mais tu penses à Blanche Gardin comme une intellectuelle,
Oui.
alors qu'elle dit plein de trucs super crades.
Mais ça sert le propos. Et elle joue de ce contraste-là en se disant, c'est pas. Tu n'as pas non plus une poissonnière en face.
Eh oui.
C'est-à-dire qu'elle dit les vrais mots au vrai moment. Tu
C'est
vois,
ça.
elle paraphrase pas, tu sais, ouais, elle dit les vrais mots au vrai moment.
C'est ça. Et ça, c'est cacher la menuiserie de l'écriture. C'est un truc de fou et très difficile à faire, mais ceux qui y arrivent, c'est génial. Sinon,
Le choix des mots, il faut le.
ouais.
Choix des mots, je le redis, moi, je suis très sensible au choix des mots. Et il faut pas hésiter. Je vais vous donner une astuce très, très moderne, très 2024. Vous prenez votre sketch, vous le mettez sur ChatGPT, vous lui dites paraphrase chaque phrase.
Oui.
Et ça va donner un peu un gloubi-boulga, il va dire un peu des bêtises, mais il va vous faire ressortir des adjectifs, des mots, des synonymes qui vont peut-être vous intéresser, qui auront peut-être des consonances plus fortes, parce que vraiment vous recherchez des consonances fortes dans vos phrases.
Ah
Donc
oui,
peut-être n'hésitez pas à vous challenger comme ça. C'est vraiment une astuce très, très moderne et très intelligence artificielle. Mais foncez sur ça. Je conseille tout le temps de ChatGPT à tout le monde pour plein d'exercices. Et utilisez-le à sa juste fonction. Il est très fort pour ça.
Ouais.
Version gratuite, vous n'avez rien à faire. Vous inscrivez avec votre compte Google. Poum, vous mettez votre texte. Vous lui dites, tu es mon co-auteur. Est-ce que tu pourrais paraphraser tout ce sketch?
Ouais.
Promptez-le bien, voilà, il faut bien l'expliquer. Je suis auteur de stand-up, j'ai un sketch. Est-ce que tu pourrais m'aider dans un sketch? Tu vas devenir mon co-auteur. J'aimerais modifier le vocabulaire à ce sketch et vous copier-coller le sketch.
Et tu réponds, et tu me files combien? Et les droits.
Ça, c'est un vrai co-auteur. Là,
Oui, ça c'est ça, un vrai co-auteur.
ça sera à ce moment-là, c'est qu'on sait qu'on aura franchi le cap où l'intelligence artificielle est trop maligne.
Oui, c'est ça. D'abord le pognon. Après, on verra si on paraphrase.
Utilisez ChatGPT, tes amis, hein. C'est très très
Ouais.
puissant et il y aura vraiment une différence dans le futur entre ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas à tous les niveaux.
Oui, moi, je l'ai utilisé récemment pour un projet. Justement, le projet des lapins, là. Bon, c'est un projet qui est pourri. Mais bon.
On rappelle, non, mais moi je ne le
Oui.
trouve pas pourri. Ce sont des peluches qui sont tatouées, qui ont l'air de plutôt belle qualité et je regrette de pas que tu m'en aies pas fait livrer une caisse. Voilà.
Oui, mais t'inquiète, ça va arriver dès que je peux. Et sinon, parce que il y a 14 ou 15 personnages, chacun avec des traits de caractère différents. Et waouh!
Tu dois leur écrire des
Voilà.
vidéos virales qui les met en scène et qui, à terme, déclencheront des actes de vente sur ces petits lapins
C'est
tatoués-là.
ça. Mais ce qui est intéressant, et ChatGPT, c'est puissant pour ça, pour justement le jonglage d'informations que ChatGPT, tu lui donnes les 15 personnages avec leur trait de caractère
Spécificité, ouais.
respectif, et tu poses des questions. Qui va s'embrouiller avec qui? Et là, il le sait. Alors que toi, il faut que tu rencontres chaque personnage comme si c'était ta famille, de telle façon à ce que, dans ta tête, tu puisses porter toute cette information mouvante. Alors que si tu as un outil comme ChatGPT, tu peux demander des choses parce qu'il peut traiter beaucoup d'informations. Donc tu lui demandes, il te répond, et après avec ça, tu fais quelque chose. C'est pas genre, tu fais pas, ah, vas-y, ChatGPT, et tu le
Non,
produis comme ça.
il te donne des choses. Et moi, je le dis, mais allez, je vous donne l'accès pour 1000 balles à tous. J'ai un robot entraîné au stand-up sur ChatGPT. C'est un robot qui a lu mon livre, qui a lu d'autres livres, qui a lu Stand Up France, tous les articles. Donc, son corpus de connaissances, c'est vraiment, il est aux petits oignons. Donc, il peut générer des choses. C'est pas, encore une fois, ChatGPT, il n'est pas fort pour dire écris-moi une blague sur les cornichons.
Ah oui, ça
Il est
c'est.
pas bon, on s'en fout de ça. Par contre, techniquement, vous pouvez lui dire ah, j'ai un truc en trois temps, propose-moi un troisième temps. Il peut être très pertinent sur ça. Et il peut challenger plein de petites choses dans votre humour. Donc, moi, j'ai un robot spécial pour ça. C'est un chatbot. Je suis comme Oussama Hamar. Je vous le mets à 1000 balles à disposition, ce
Mais ça c'est très
chatbot.
bien. Moi, je vous mets le mien à 10 balles. Le mien, c'est pour faire les descriptifs pour Eventbrite, pour Facebook, pour des événements.
Ça marche
Ah,
très. Ah,
et
ça
ça
marche
marche
très
bien.
bien.
Ah
Ça
oui,
marche très bien. Vous prenez
parce que
pas
ce
la
qui est
tête.
écrit, c'est de la merde déjà. Ce que tout le monde écrit, c'est bidon. On écrit, il y a des trucs bidons à écrire. Bah, moi, je l'ai entraîné à écrire un truc bidon mieux que ce que j'aurais fait moi, parce que ça me saoule de le faire.
Et plus vite.
Et
Mieux, plus
plus,
vite, 100 fois d'orthographe.
c'est ça. Ça,
Non, mais
c'est
c'est très important.
intéressant.
Pareil, si vous voyez que vous pêchez un peu au niveau orthographe, n'hésitez pas à passer par là. Au lieu d'envoyer des mails pleins de fautes ou passer pour un guignol, faites-le. Mettez-le dans ChatGPT, corrige-moi les fautes. En une seconde, c'est fait, mais vraiment, c'est instantané. Vous les corrigez, vous envoyez, basta.
Ouais.
N'ayez pas honte, ce sont des outils. Il faut
Ah
pas.
oui, parce que c'est
C'est pas
ça.
tricher, c'est juste améliorer, utiliser les outils actuels comme le correcteur orthographe de Word ou
Ah oui. Bah
de
oui.
Doc. Hein.
Ou sinon, c'est comme changer ton pneu en essayant de dévisser les écrous avec tes dents. Non, parce que moi, je suis à l'ancienne. Il y a un outil, pourquoi tu ne l'utiliserais pas? Bon. Qu'est-ce que j'allais dire qui n'était pas faux? Oui, alors. Et voir Jeff Panacoc au Zénith, c'était une expérience magnifique parce que j'étais dans une salle où il y avait 4000 personnes qui ignoraient tout de mon existence. Et les seules personnes qui connaissaient mon existence, c'était ma fille, mon pote et le mec que 4000 personnes étaient venues voir.
C'est dingue, hein?
Et ça, c'est un niveau de célébrité qui me va. C'est, waouh, c'est super. Mais parlons de ça. Moi, tu as un truc que tu m'as dit en off. Et je sais que tu es un mec assez réservé avec tout ça. Mais réponds-moi, est-ce que Gad Elmaleh sait que j'existe? Parce que j'ai dit à ma famille que Gad Elmaleh a entendu parler de mon existence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a entendu le mot Scott?
Lui, alors Gad n'écoute pas le podcast.
Merde.
Sache-le. son entourage professionnel l'écoute. D'ailleurs, il y a... Avant de voir ça, je vais vraiment faire un... Je vais vous dire un truc qui est incroyable. Je reviens de tourner et il n'y a pas une date où il n'y a pas des gens qui m'ont remercié pour le podcast et pour Stand Up France. Et aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours que je reçois un message sur Instagram pour remercier Stand Up France. Et il y a vraiment une typologie de messages qui me touche. C'est des gens qui ont déménagé à cause de Stand Up France. Gens qui vont dire « Hey, j'habitais 3, je suis allé vivre à Nantes pour faire du stand-up parce que tu as dit qu'à un moment, il fallait se prendre la main et... » Et aller dans une ville de stand-up. J'habitais Beauvais, je suis allé à Paris faire du stand-up et j'ai fait ça. Et je suis là, je me dis waouh, mais c'est même pas une responsabilité, c'est-à-dire, tu vois, ça pèse pas sur moi, c'est que du bonheur. Me dire, tous ces gens-là, vous avez pris des décisions en ayant nos informations, nos avis, qui ne sont que des avis, hein, mais vous nous avez fait confiance et vous avez fait un pas de plus vers vos rêves. Et ça me rend trop fier. On m'a fait dédicacer pas mal de livres quand j'étais en tournée dans la région nantaise.
Mais ça, c'est très cool.
Et je ne m'y attendais pas, en fait. J'avais oublié que le livre, ça pouvait se dédicacer, que les gens étaient heureux, juste heureux de pouvoir rencontrer personne qui avait fait le livre.
Est-ce que tu écris comme de la merde?
Non. Ouais, j'écris super mal. J'essaie de faire des trucs quand j'ai le temps, j'écris mal. Mais...
Ah oui, moi, ça, c'est ma hantise. J'en m'a fait dédicacer des trucs. Je dis, mais ça va être moche, c'est dégueulasse comment j'écris. Voilà.
Non, moi j'écris, j'essaie de faire un petit dessin à chaque fois, si je peux. Et vous avez été, et même des gens qui ont plusieurs années de stand-up qui sont venus me remercier pour le site, pour plein de choses. Des gens trop forts qui étaient limite sur les plateaux, qui cassaient la salle largement plus que moi. Ils m'ont fait, voilà. Ils ont été adorables et ça me touche de me dire. Ça devient concret, en fait. Stand-up France, ça devient un truc très concret dans l'esprit des gens. Et la reconnaissance, c'est une des premières fois où je sens concrètement qu'on a un retour, que les gens nous retendent la main, que ce soit en t'invitant, en m'invitant dans des choses.
Mais oui.
On m'a ouvert des comedy clubs, on m'a ouvert des dates. Vraiment, je savais que c'était pour moi stand-up, mais aussi par rapport à Stand Up France. Et l'un et l'autre sont indissociables.
Mais oui.
Voilà, je suis trop content. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous avez donné, pour tous les retours que vous avez faits. C'est que du positif et je suis content si vous avez encore... si on permet à d'autres personnes de se lancer ou à d'autres de s'améliorer, de s'affirmer, d'aller au bout de leur projet.
Oui, parce que ça fait boule de neige, pour moi en tout cas. Moi, quand je me suis intéressé au stand-up, je suis tombé sur Stand Up France, des livres que tu suggérais, j'ai tout lu.
Ah, je ne suis pas content des livres, je ne suis pas content de ce côté-là. Sur les livres, je ne suis pas content d'un truc.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est ton Comedy Bible, là, il se vend tellement plus que mon guide. Ah oui. Et les gens, ils ont plus le Comedy Bible. Ils me disent « Oh, j'ai acheté le Comedy Bible, peut-être je prendrai ton livre. » Non, faites-le à l'inverse. Prenez mon livre, après vous prenez le Comedy Bible.
Ah oui, c'est ça, c'est la
moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
Vous avez un meilleur marketing. Voilà, meilleure réputation, meilleur marketing, Comedy Bible. Je reconnais que ça se vend beaucoup plus. Et j'ai des bons retours sur l'adaptation.
C'est sorti à 20 ans. Il y a 20 ans que le truc tourne. Donc, c'est sorti en 2001, la première version, et ça se piratait. Vas-y, c'était un peu... un truc, mais...
C'est le titre aussi, il est bien trouvé, quoi.
Peut-être.
Il y a un bon marketing, vous avez un bon marketing.
Peut-être avec d'autres noms religieux de livres, tu peux essayer du stand-up. La Torah du stand-up.
L'Ancien Testament du stand-up, ce serait trop beau.
Drôle. Allez, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a inspiré aussi à redonner à la communauté, parce que finalement, tout ce que j'ai pris sur Stand Up France était gratuit, était accessible. Et c'est pour ça que j'ai voulu traduire les livres. C'est vrai, mais Bré qui fait ce travail, qui travaille, tu as travaillé longtemps gratuitement pour tout le monde. Et maintenant, ça revient et c'est très cool. Donc, tu travailles avec Gad Elmaleh. Allez, on veut savoir.
Non, mais c'est, on va faire simple. J'ai eu la chance, là, en revenant de tournée, qu'on propose deux dates en première partie
Ouais.
de Gad Elmaleh à Sanary, qui est un petit village côtier à côté de Marseille, à 30 minutes de Marseille. Donc, déjà, je vais vous dire ce que ça fait dans mon esprit parce qu'il faut comprendre, on passe par plusieurs émotions. Moi, cette année, elle m'a fragilisé sur certains trucs parce que j'ai eu des projets. Je devais faire le projet d'Amazon, on m'a annulé à quelques jours au projet alors que tout avait été tourné chez moi et tout. Et Nouvelle Star, c'était un peu pareil. Oui, on te veut, et finalement, on ne me veut plus. Et à chaque fois, je me suis dit, putain, mais ça te touche, pourquoi? Parce que je me mets dans des dispositions mentales où je me laisse me toucher. Parce que je me suis investi émotionnellement et tout. Je me dis, ah, ça va changer ma vie. Je me mets une pression alors que ça. L'un et l'autre, je ne voulais même pas les faire en vrai. Tu vois, je les fais parce que c'est opportunité. Je n'étais pas motivé. Et là, quand je reçois ça avant de partir, j'étais au milieu d'une tournée. On me dit, écoute, quand tu reviens, est-ce que tu veux faire ça? Je suis contacté par un manager. Je dis oui, j'appelle. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi moi, tu vois? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que j'étais méfiant. On m'a dit, mais qu'est-ce que. Voilà. Tu vois, je suis fatigué, les gars, je suis fatigué, je suis en tournée, je vois pas.
J'ai un moche sur Tinder, tu croyais que c'était un brouteur. C'est
Ah
quoi
ouais, un
ce
truc
truc?
bizarre.
L'arnaque.
Non, écoute, non. Il me dit, ben, moi j'écoute le podcast, c'est très bien. Et Gad aime tes blagues, voilà.
Oh, cool.
Mais c'est pas plus que ça, quoi. Ok, raccroche, envoie tes coordonnées, boum, 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 contrat. Et là, quand je le contrat, je me dis, oh là là, ça devient très concret.
Ouais.
Ça devient très concret. Donc, pour la petite anecdote. Je devais être à Sanary à 19h et j'étais en dernière date de tournée, j'étais à Niort.
Bah ouais.
Et j'avais le train qui partait à 9h qui arrivait à 17h à la base. Je me suis dit, non, en vrai, arrête, tu vas être trop juste, tu vas partir à 6h du matin, tu vas arriver à 13h à Marseille, comme ça tu as le temps de prendre une douche, te raser, faire tout ce qu'il faut. Je prends le train à 6h, je change, ça me coûte une fortune les billets. Je prends, j'arrive à Poitiers et là, la SNCF vous informe qu'il y a eu un accident à la très bonne Montparnasse. Quelqu'un a été heurté par une traque, donc tout le trafic est arrêté et on attend l'officier police judiciaire qui va mener son enquête.
Eh bien.
Et là, toutes les heures, je faisais, bon, mais l'officier n'est pas encore arrivé, il va mener l'enquête. Ah, l'officier est arrivé. Et après, il dit, on va reprendre le trafic, mais il y a trois TGV devant nous, donc on va rouler lentement. Moi, j'avais des gouttes, je me dis, je vais louper la première partie pour une connerie comme ça, alors que j'ai. Je me dis, c'est mon destin cette année de tout planter, d'être mauvais surtout. Finalement, j'arrive à Paris-Montparnasse, j'ai complètement loupé ma correspondance de plusieurs heures. Et là, mentalement, je me suis renforcé. J'ai dit, il n'y a aucun problème, vraiment, pas un mot de solution. Je vais gare de Lyon, je regarde le premier train qui va à Marseille, je parle à personne. Je rentre dans le train, je vais au wagon-bar, le train démarre. Et là, je dis, peu importe ce qui se passe maintenant, whatever, je suis dans le train, j'arriverai à Marseille, on ne va pas me débarquer au milieu. Le contrôleur, le chef de bord arrive, je lui explique ma situation, il m'a dit, ok, pas de souci. Il m'a trouvé une place dans le train et j'ai pu finir mon trajet, arriver à Marseille même en retard et aller faire la première partie de Gad Elmaleh. Je vais pas, comme pour Panacloc, je vais pas parler pour eux. Je veux pas parler pour lui, j'ai pas envie. Je suis sûr qu'il viendra parler lui-même dans le podcast. Je vais juste dire des choses. Un peu générique et j'espère qu'elles vont vous amener de la réflexion. Je le réaffirme, à ce niveau-là, ils sont pas calibrés pareil.
Ouais.
Ils sont pas calibrés pareil, les gars. Ils sont, c'est pas possible. C'est un level d'exigence et je parle pas de stress. Il y a zéro stress. C'est juste un level d'exigence dans ce qu'ils cherchent que moi je n'ai pas. Et autant je vois entre le, on va dire, dans l'endroit où je suis, dans ce ventre mou du stand-up, je vois où je suis. Et là, je suis obligé de me dire, OK, sur la partie, on va dire, écriture, peut-être que je peux être dans cette conversation. Sur la partie jeu et transformation des blagues et relation avec le public, c'est
Chose.
10 étages au-dessus.
Ouais.
Et ça m'a calmé. Et je vais dire un truc qui va. Moi, qui m'a re... ça m'a reprogrammé sur un truc. Quand je suis avec des stand-uppers en général et tout, qui galèrent un peu quoi, on me parle d'abonnés. On me parle de stratégie. On me parle des autres stand-uppers. On me parle plein de choses. On me parle d'Instagram, d'algorithmes. Quand je suis avec Gad Elmaleh, stand-up, blague, spectacle, stand-up, blague spectacle.
Ouais.
Il n'y a pas un truc à côté de ça. Ce n'est, on est là, on est sur un espace de temps où on ne parle que de stand-up. Et la seule chose qui intéresse, c'est avoir les meilleures blagues. Et quand je sors de scène, c'est on me dit, cette blague, elle devrait aller là. Cette blague. Et tout est juste.
Ben oui.
Et tout est là pour servir l'unité de sketch que j'ai proposé.
Ouais.
Et je me dis, OK, next level de setup. Donc, ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis vraiment de faire relativiser, de me dire, OK, il y a une partie qui est marrant. Il y a vraiment une partie qui, moi, j'aime bien le côté people, on parle des autres et tout. En setup, il n'y a pas de souci. Mais je vais apprendre à me taire
Oui.
plus. Je vais apprendre à rester concentré sur mes blagues. Et ça a réaffirmé un truc très important qui vaut pour tout le monde et que ça fait plusieurs fois, j'ai l'épiphanie qui a l'air débile, hein, ce que je vais te dire, je vais te dire, c'est évident.
Oui.
Si vous écrivez tous les jours, vous allez être meilleur en stand-up. Point à la ligne. Non mais point.
Oui, c'est ça.
Mais cette épiphanie, lui, il l'a eu il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Alors tu vois, avec 30 ans de carrière. Hein. Et moi, je l'ai eu, il n'y a pas, je l'ai, c'est cet été que c'est vraiment revenu. On est plusieurs à se remettre dans ce truc de dire il faut écrire tous les jours, il faut écrire tous les jours. Tu sais, moi, j'aime pas dire il faut, mais là, je sens vraiment dans ma vie que c'est important d'écrire tous les jours, que ça répond à quelque chose. Et peu importe que j'ai envie ou pas, je vais écrire tous les jours parce que je sens que la magie, ce muscle-là, il se transforme. Et j'écris pas tous les jours pour, en me disant de chaque écrit, je vais en faire quelque chose sur scène, mais j'écris tous les jours en me disant je vais avoir de plus en plus des gros muscles. Je vais être puissant quand je vais arriver sur scène. Parce que peut-être de 4 pages, je vais avoir qu'une demi-blague qui va servir de tag à une autre blague, mais j'ai besoin que de ça pour franchir ce cap où je suis pas bon, je suis excellent.
Ben oui. Ben oui. Ben oui, parce que ça, finalement, il faut se méfier des inspirations. Ouais, tu fumes un pétard, tu regardes un documentaire animalier et tu es inspiré pour écrire du stand-up. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est comme les mecs qui composent au piano. Ah, vous avez une inspiration. Oui, ça m'arrive d'avoir une inspiration, mais il faut que l'inspiration tombe pendant les 8 heures que je suis assis au piano. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah bah oui, bah oui. Mais c'est ça, c'est le travail, quoi. Et c'est pour ça que moi, je me suis inscrit sur Fiverr il y a déjà 4 ans, parce que je savais que je n'avais pas la discipline de... Parce que moi, je suis très autosatisfait dans ma tête avec les blagues que je crée. Parce qu'une fois que la blague est dans ma tête, je dis, ah, c'est une super blague. Et moi, j'ai déjà apprécié, donc je n'ai pas le réflexe de voir, il faut absolument que je la raconte à quelqu'un. Et du coup, je me suis inscrit sur Fiverr pour ça. Et parce que dès que quelqu'un passe une commande, la montre commence à tourner. Et là, il faut produire avant telle date. Il faut satisfaire le client qui paye. Et ça, justement, je me suis entraîné comme ça. Et après, à force, oui, tu deviens meilleur, quoi, parce que tu t'entraînes, quoi.
Au niveau des retours, moi, j'ai jamais été le mec qui reçoit beaucoup de retours. Ou alors, c'est très rare les gens qui m'en font et je suis assez reconnaissant, mais ils sont justes. Mais j'ai sous-estimé la puissance des retours et l'humilité qu'il faut avoir quand on te fait un retour. Moi, je crois que vraiment qu'il y a... En fait, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en position quand il y a quelqu'un que vous aimez bien ou vous pensez qu'il peut vous aider, apporter un truc, dire « Est-ce que tu aurais la gentillesse d'écouter mon sketch et de me faire des retours ?» Et il faut prendre ces retours et s'adapter et challenger. Moi, je le dis dans mon cas... J'ai été négligent et je le vois, j'ai une marge de progression sur ma capacité à absorber les retours, à les traduire et à challenger mes blagues, à me dire je suis trop aussi auto-satisfait certaines blagues alors que je pourrais aller plus loin. Et je devrais demander aux gens, ok, comment tu penses que je pourrais aller plus loin? Qu'est-ce que c'est kiff? Et là, je vois que les mecs trop forts, quand tu leur fais un retour, ils absorbent, ils transforment, but en lucarne.
Mais oui.
Lucarne automatique.
Oui, c'est ça. Parce que ça a un sens. C'est des fois comme quand tu vois deux chefs d'orchestre parler sur une partition. Ah, ça, c'est pas le sol dièse. Ah. Et du coup, ah ouais. Quand tu vois des masterclass, c'est ça qui. Moi, j'aime bien voir des masterclass genre d'opéra où tu as Pavarotti qui donne une masterclass à un ténor quelconque. Mais le mec, il est déjà un ténor, il est déjà à l'opéra, il est déjà produit, okay. Il est déjà okay. Dedans. Et Pavarotti lui dit non, mais c'est dans... Et avec des mots très simples, Mais bah, les deux ont une compétence technique tellement avancée que des mots très simples, bah, ça déclic direct dans la tête de l'autre, quoi.
Et c'est dur, le choix des mots, moi je dis pour les retours, je trouve très dur. Parce que des fois, on n'a pas le même vocabulaire avec la personne avec qui tu échanges. Donc, souvent, et ça c'est une astuce de storytelling, je crois que ça passe par une histoire. Par exemple, pour faire un retour sur un problème technique, ça vaut le coup de dire, écoute, moi j'avais avec telle personne, j'avais cette blague qui boitait. Et elle boitait, on s'est rendu compte qu'elle boitait à cause de ça. Et on l'a débunké comme ça. Et tu dis, je pense que sur telle blague, tu as peut-être le même problème. Et donc, ça va devenir, tu vois, ça a expliqué la dynamique du problème et la résolution. Au moins, tu lui donnes des clés pour résoudre ça. Et vice-versa. Et je trouve ça trop. En fait, les retours, j'ai trop longtemps été dans la position de celui qui faisait le retour. Et je crois que je vais me forcer, surtout bientôt, j'ai mon spectacle, à me remettre dans la position de celui qui attend des retours et qui écoute les retours.
Ouais.
Mais alors, attends. Les retours des gens
Mais
dans...
calmez-vous.
Non, non,
Mais c'est de la
retour, les
merde
retours,
ce
les gens,
que
ils
vous
s'aiment
faites, voyage.
bien.
C'est
Mais là, on
moche.
a eu... Voilà, on est en temps de tournée, on a eu des retours de gens bourrés, mais c'était incroyable. À un mec qui faisait des one-liners
Ouais.
et qui est une bête, je donne son nom, il s'appelle Axel Richard. C'est un gars de Nantes. Vraiment des super one-liners. Des super... Vraiment... J'ai vu péter des salles avec ce truc-là. C'est trop bon niveau, les blagues, tu les vois pas du tout arriver, c'est impossible. Et un mec, il fait non, mais on voit toutes tes blagues venir. Hein. Moi, j'avais la fin à chaque fois, alors que c'est impossible. Et le mec, il les a testées 100 000 fois, ces blagues, elles sont parfaites. Il n'y a pas un mot de trop pour le coup, lui, c'est vraiment l'art d'épurer. Et ben, un autre mec complètement bourré qui lui fait voilà, non, mais tu devrais mettre du lien entre tes blagues. Tu vois, il faut que ça raconte une histoire. Alors que c'est l'inverse de son style.
Oui, mais là, ça me fait penser à un truc qu'on travaillait beaucoup dans l'école de Greg Dean. C'est le feedback de solution. Alors, on était autorisé, même en tant que prof, on était autorisé à donner du feedback, à faire des retours aux élèves, uniquement et exclusivement si on avait une solution technique à apporter. Par exemple, si la blague était un peu boueuse, était trop de mots, etc. On devrait lui dire, OK, dans le setup, dans l'idée principale, c'est ça. Est-ce que tu peux le dire avec moins de mots? Ta, 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 ta. Est-ce que tu as articulé bien? Est-ce que un son avec une consonne peut être plus intéressant? Mais ça s'arrête là. Parce que si tu as juste une opinion à donner, l'opinion, tu sais ce que tu peux faire avec. Et on s'en fout de ton opinion, ton ego. Vous travaillez pour la blague. Et le job de celui qui l'a fait, celui qui donne le retour, c'est d'améliorer la blague. Et faire des retours génériques à mon moelleux comme ça sert à rien.
Ouais, surtout quand c'est. Voilà, il y a des trucs. Faites le truc quand même parmi les retours. Moi, je vais être plus. Moi, j'ai eu des retours intéressants, que ce soit de GAD ou même de producteur exécutif qui m'a dit limite, le début de ton sketch, il est trop subtil. Alors, c'est à la fois un compliment, à la fois un gros défaut d'un sketch. Et ça veut dire, les deux m'ont vraiment mis au point sur un défaut que j'ai. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de routine au paperboard. Je ne l'ai pas challengé cette routine alors qu'elle était encore améliorable. Et donc, je vais re-réfléchir en me disant, hey, tu ne peux pas démarrer tranquillement. Il va falloir envoyer des bangers de suite. Les trucs qui obtiennent des applauses parce que c'est la 8e blague, passe-la en premier. Dégage les trucs qui obtiennent juste des rires. Remets les nouveautés parce que moi, j'ai une chance terrible. C'est qu'en ayant les réseaux sociaux, je sais quelles blagues ont fait des millions et quelles blagues les gens ont vraiment adhéré.
Oui, ça c'est
Donc, je vais
intéressant.
pouvoir les réintroduire dans mon sketch. Et voilà, et les deux m'ont fait des méchants retours, et je sais que mon sketch va être meilleur quand je vais le rejouer parce que j'ai eu ces retours-là et qu'ils partaient d'un bon endroit. Et le bon endroit, ah aussi, je me suis aperçu d'un truc de ouf, c'est si vous voulez faire les meilleurs retours, ne pensez qu'au sketch.
Ben oui.
C'est-à-dire ne pensez pas à la carrière, pensez pas aux réseaux sociaux, pensez qu'au sketch. Et arrêtez de me parler des réseaux sociaux, d'ailleurs, s'il vous plaît. Parlez-moi de vos blagues, parlez-moi de vos sketchs, de votre envie. Orientez tout votre travail sur le produit.
Mais
Le
oui.
produit, le produit, le produit.
Oui, parce que ce qu'on veut, c'est aider la personne à articuler son sens de l'humour. C'est ça. Est-ce que ce que tu fais articule bien ce que tu veux dire? Ou voilà, et c'est juste ça, c'est aider les gens à devenir qui ils sont, plutôt que d'essayer de les conformer à nos idées médiocres de ce que ça devrait être. Et je vois beaucoup, je connais une fille, elle écoutait tout le monde. Elle écoutait
Il n'y a
tout
rien de pire, rien de pire. Je vois.
Et arrêter le stand-up, sinon, parce qu'un tel m'a dit qu'il faut faire ci, l'autre qui me dit qu'il faut faire ça, l'autre qui machin, l'autre qui machin. Et chacun projette, et ça, il faut être hyper vigilant, à qui on demande des retours, à avoir l'humilité de les accepter et l'arrogance de ne pas les prendre quand on voit que la personne n'est pas compétente pour les donner. Après, le public, c'est très simple. Si ça rigole, c'est drôle. Si ça rigole pas, c'est pas drôle. Voilà, et là, c'est très binaire quand tu fais un truc sur scène. Mais une personne qui a qu'une seule opinion, qui vient te dire quelque chose, et surtout si tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas.
Le retour non sollicité, il est compliqué.
Ah oui, c'est ça, ouais, non, merci. Donc voilà.
Mais, et pour terminer ce podcast, je vais vous donner une affirmation qui peut vexer d'autres personnes, mais je pense que vous allez la comprendre. Je ne connais personne de très fort qui ne soit pas connu.
Mais c'est ça.
Donc posez-vous les bonnes questions. Et cette question, je l'applique, hein, on se l'applique, nous, Scott et moi, on se l'applique.
Mais oui.
J'ai pas de souci à. Je sais que mon level de reconnaissance et tout, il reflète mon niveau actuel.
C'est vrai.
Et il ne tient qu'à moi à monter mon jeu. Et ça se saura. Plus je vais monter mon jeu, plus ça va se savoir. Mais c'est à moi à être exigeant. Et aujourd'hui, je suis en concurrence avec une seule personne, c'est Briac.
Ouais.
Et je suis même pas en concurrence, je suis en concurrence avec le Briac d'hier.
C'est
Je
vrai.
dois être meilleur que le Briac d'hier, meilleur que le Briac d'avant-hier. Mais pour ça, je dois en être conscient, avoir l'humilité de me dire, tu n'es pas arrivé au bout du chemin, et j'y arriverai peut-être jamais, mais travaille, oriente ton travail sur certaines choses, oriente ton travail sur améliorer le sketch, améliorer le spectacle, et le reste, ça sera une conséquence.
Ben oui, plus tu travailles, plus tu as de la chance. Mais c'est ça que les gens, ah oui, il a trop de chance. Non, il travaille, c'est un peu le truc de Tarantino. Ouais, il a trop de chance, Tarantino. Ah, et Tarantino, c'est comme Kevin Hart. C'est un succès rapide qui a mis 16 ans. Ah, du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain, ayant 16 ans, plus le jour, et après le lendemain. Non, mais c'est pas comme ça. C'est du boulot, et la plupart du temps, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui avance, il y a des trucs qui vont presque tomber, mais qui ne tombent pas. Après, il y a un autre, après, il y a un truc qui tombe vraiment. Et après, c'était pas ça. Et là, fou.
Et c'est pour ça qu'il faut voir le. Il faut prendre du recul et croire le processus. Croyez le processus.
Ouais.
Mais fixez vos objectifs. Suivez le plan. Je ne le répéterai jamais assez. Et croyez le processus. C'est impossible que ça ne se passe pas bien si vous croyez le. Ça va le faire. Il faut juste se dire, il y a plus ou moins de temps. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Le facteur chance, vous ne le maîtrisez pas. Le facteur talent naturel, vous ne le maîtrisez pas, mais vous allez le compenser. Vous inquiétez pas par le travail, vous allez le compenser. Et il ne faut pas qu'il y ait de frustration. Chacun est à sa place et chacun aura sa chance. Il n'y a pas de problème.
Mais oui.
Et acceptons aussi un truc que vous pouvez faire du stand-up, être tellement heureux en stand-up sans devenir professionnel. Ça peut être qu'un loisir et c'est très bien. C'est un loisir qui fait du bien. Vous pouvez jouer au foot sans être Ronaldo, sans chercher à intégrer une grande équipe. Vous pouvez faire de la muscu sans devenir The Rock. Moi, je fais de la muscu, je sais que je vais gagner pas beaucoup de muscle, mais je suis là tous les jours et ça me fait du bien à l'esprit. Et j'étudie le truc et je me donne, mais je me donne pas autant qu'un mec qui va faire Mister Olympia. Je vais pas faire une diète, je vais pas me charger d'anabolisant. Ça ne me sert à rien, c'est pas mon but. C'est juste un petit truc dans ma vie qui me fait du bien. Donc le stand-up, prenez-le aussi comme ça. Il faut pas que ce soit une souffrance. Regardez, je cite Anne Cahen, qui a encore son spectacle à Paris, au Métropole actuellement. Je vais la citer. Gardez la joie sur le chemin. Gardez la joie. Et le jour où vous n'avez plus de joie, faites une pause. Vous manquerez à personne et vous allez vous éclater à faire une pause. Allez, prenez un mois à Bali, faites ce que vous voulez. Revenez l'esprit frais. Et si le stand-up, ça vous manque, refaites-en. Si ça ne vous manque pas, inscrivez-vous à la Zumba. C'est la même chose, ça apporte la même chose dans votre vie. Soyez heureux.
C'est vrai. Soyez heureux, les darlings. Bon, avec ça.
Bah écoute, on va s'arrêter là. Vous retrouvez Scott Finn sur Instagram. Attention, vous pourriez être surpris par un truc.
Ah oui, ah
Si demain
oui.
si vous recevez un mail de Scott Finn, il a un logo maintenant. Il a un logo Scott Finn
Ah
Production.
oui, et c'est pas. J'en avais deux même, que je lui ai reçus hier.
Est-ce que tu
Bon.
peux les envoyer à MP, à Jeff Panaclock, il va adorer ça.
Ah oui, je vais l'envoyer.
Parce que voilà, il va se délecter de ce logo.
Ah,
Il
mais
est mortel. Tu l'as
je
fait
vais
faire
changer.
comment?
Non, 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 ça c'était non, ça ce que j'ai mis sur la page Facebook, c'était un truc naze. Mais là, j'ai reçu un de mes élèves a fait, il m'a fait deux et ils sont super. Je vais garder.
Celui que tu as sur la page là du podcast, c'est le nouveau ça.
Sur la
celui
page.
Où tu as la barbe, regarde sur Adobe là.
Oui, non, ça, oui, ça je l'ai fait, c'est nul. Ça, c'est...
Ah ouais, j'aime bien, moi je trouve.
Bien. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais j'ai deux autres. Non, mais ce que ça, ne soyez pas surpris, surtout les gars, si vous voyez, ou les trois qui regardent ma page Insta, que le volume de publication se réduise. Parce que Briac m'a conseillé d'enlever tout ce qui est merde.
Ah, ça, tu m'en veux encore, ça.
Et non, mais depuis que tu m'as dit ça, je regarde et il n'y a que ça. Je dis, bah, ça, je peux l'enlever.
C'est pas grave.
Et je commence à enlever. Et c'est très bien. Donc, je vais faire
c'est dur. Ce que je veux, c'est quand on tombe sur Scotchfield, on se dit, c'est le podcast, c'est les livres, c'est l'essentiel de ce que tu fais en ce moment et ouais. C'est ça qui est important. Et Scotchfield Artist, il arrivera sur Internet avec 3 minutes ou 5 minutes solides et il mettra tout le monde d'accord au moment voulu.
Voilà, c'est ça. Et pour l'instant, attendez. Mais faites autre chose. Ne retenez pas votre respiration, mais ça va arriver. Et voilà.
Allez, les amis, à la semaine prochaine. Merci
beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.